Chapitre 10. Peggy finit par comprendre que l'ours infirme ne la poursuivrait pas. Inexplicablement, il était demeuré à l'entrée des sous-sols, renonçant à tirer profit de sa victoire. Quoi qu'il en soit, son intervention s'était révélée bénéfique. Elle lui devait une fière chandelle. Le réseau de tunnels serpentait dans l'épaisseur de la banquise. Chaque section en était numérotée. Ça et là, des plans détaillés permettaient de déterminer dans quel tronçon du labyrinthe on se déplaçait. À présent, Nyctalope, l'Américaine ne souffrait plus de la semi-obscurité. Elle éteignit sa lampe torche dès qu'elle réalisa que la seule lumière du jour irradiant à travers la glace des parois suffisait à l'éclairer. Ses yeux amplifiaient le plus infime rayon lumineux. Une simple luciole aurait illuminé sa route à la façon d'un projecteur. Elle fit le point. Le GPS surpuissant dont l'avait équipé Evgeny parvenait sans mal à accrocher le satellite, en dépit de la couche de glace. En reportant les coordonnées sur la carte, elle prit conscience qu'elle se trouvait aux abords du repère supposé de Konski. « Il est malin, songea-t-elle. Il a utilisé les anciennes installations de l'armée américaine. Il y a sans doute quelque part au bout de ces galeries un bunker enfoui. » Un PC de crise nucléaire datant de la guerre froide et dont il a fait sa résidence secrète. Elle mangea pour reconstituer sa réserve thermique. Pour l'instant, elle ne souffrait pas du froid. Au moment de passer à l'action, elle s'inoculerait une dose de thyroxine afin d'emballer son métabolisme et d'augmenter ses capacités calorigènes. Les nanoparticules comprenant le message feraient le reste et décupleraient les effets du produit. Elle consulta le thermomètre fixé à son poignet. Il indiquait moins 35. Il faisait plus chaud dans les galeries qu'en surface. Lorsque le soleil brillait, la voûte translucide fonctionnait comme une serre. Du lichen, de la variété rocktrite, poussait sur le sol et les parois. C'était un végétal comestible et très énergétique. Les Esquimaux et les rennes en appréciaient les bienfaits depuis l'aube des temps. Peggy reprit sa marche. Il arrivait qu'en raison des effondrements, certaines galeries se terminent en cul-de-sac. Mais, grâce aux plans muraux, elles réussissaient toujours à contourner l'obstacle sans trop dévier du bon chemin. À plusieurs reprises, elle s'immobilisa, persuadée d'avoir détecté l'écho d'un pas dans son dos, comme si quelqu'un l'avait prise en filature et s'appliquait à marcher au même rythme qu'elle. Peut-être se trompait-elle ? L'immensité des tunnels déformait les sons. Et puis elle était à bout de nerfs. Elle commençait à s'imaginer des choses. Elle se rappela l'hallucination dont elle avait été victime 2 heures plus tôt, lorsqu'elle avait cru voir l'ours rapetisser. Quand ses jambes refusèrent de la porter plus avant, elle dut se résoudre à faire halte. De temps à autre, au cours de sa pérégrination, elle avait vu surgir des silhouettes de véhicules abandonnés, principalement des camions et des chariots élévateurs, que la rouille avait en partie dévorés. Elle décida de dresser son campement à l'intérieur d'un fourgon utilitaire dont les parois retiendraient la chaleur du bivouac. Là, après avoir allumé son réchaud, elle entreprit de démonter le fusil pièce à pièce. Quand elle eut enfin réussi à éjecter la cartouche bloquée, elle remonta l'arme et se coucha. Elle dormit d'un sommeil sans rêve. Le lendemain, elle rencontra les sentinelles. Elle fut prévenue de leur approche par les éclats de rire que répercutait la voûte du tunnel. À l'oreille, elle estima qu'il s'agissait d'un groupe de 3 hommes échangeant des plaisanteries dans une langue inconnue. Elle se dissimula derrière un amoncellement de caisses pourries et ordonna aux nanoparticules de stimuler ses glandes sudoripares afin de répandre aux alentours une odeur d'ours en maraude. Les gardes ne tardèrent pas à se montrer. Vêtus de parkas militaires blanches, ils étaient armés de kalachnikov. Ils avaient les yeux bridés, les pommettes saillantes. Peggy vit qu'ils ramassaient le lichen poussant sur les parois pour en remplir un grand sac. C'étaient des natives, habituées depuis l'enfance à survivre dans un environnement où l'homme n'avait pas sa place. Gronski n'aurait pu trouver meilleur chien de garde. Génétiquement adaptés à l'hiver perpétuel, ils étaient capables de supporter des températures qui auraient statufié un occidental. Ils poursuivirent la cueillette quelques minutes encore, se rapprochant dangereusement de l'endroit où Peggy se dissimulait. Puis l'un d'eux renifla en grimaçant et releva le canon de sa mitraillette d'un air inquiet. La jeune femme supposa qu'il venait de repérer l'odeur de soin développée par les nanoparticules. Seul un ours blanc était en mesure de répandre une telle puanteur. Seul un ours blanc aurait pu être tenté d'explorer les cavernes de la banquise. Les trois hommes reculèrent, le doigt sur la détente, scrutant la pénombre des salles. À présent, ils chuchotaient. Peggy les vit disparaître à l'angle de la galerie. Cette rencontre lui avait au moins appris une chose. Elle venait d'entrer chez Gonski. À partir de là, les choses se gâtèrent. Le plafond du tunnel s'était effondré, si bien que le labyrinthe serpentait à ciel ouvert. La conséquence immédiate de ce bouleversement fut la chute vertigineuse de la température. Le thermomètre fixé au poignet de Peggy indiqua bientôt moins 65 degrés. Des crevasses traversaient les couloirs, ouvrant dans le sol des abîmes qu'enjambaient des ponts constitués de structures emboîtées. La jeune femme identifia un matériel de provenance militaire. Elle souffrait du froid. Sous ses vêtements, une fourrure blanche épaisse s'était mise à pousser, couvrant son corps de la tête aux pieds. Elle avançait courbée, haletante, sachant qu'elle ne devrait s'arrêter à aucun prix. Le GPS indiquait qu'elle se trouvait à la lisière du repère de Gronski. Elle trouva trois cadavres gelés. Un autre commando dépêché par Evgeny. Les hommes s'étaient recroquevillés au creux d'une congère. La mort les avait surpris là, les emmurant à l'intérieur d'un bloc de glace. Ils avaient les yeux fermés. Leur chair cyanosée était d'un bleu irréel. On dirait des extraterrestres, se dit Peggy en contournant la tombe. Un peu plus loin, elle traversa un cimetière. Cette fois, elle dénombra une trentaine de dépouilles pétrifiées par le gel. Il s'agissait de natives, emmaillotées dans un complexe sarcophage de bandelettes, de peaux de renne et d'os sculptés. Faute de pouvoir les ensevelir, on les avait déposées là, dans cette chapelle ardente. Une chapelle de glace où l'hiver perpétuel les préserverait à jamais de la corruption. La jeune femme estima qu'il s'agissait de la garde du prétorien de Gronski. Le froid les avait tués. Les trois ramasseurs de lichen qui avaient failli la surprendre constituaient tout ce qui restait de la légion dont le trafiquant d'armes s'était, à l'origine, entouré. Elle s'agenouilla derrière un monticule pour scruter les alentours. À présent, elle avait presque chaud. Le poil d'ours dont elle était couverte l'isolait du froid à la perfection. Elle percevait les odeurs avec une acuité remarquable, à la façon d'un prédateur. Son odorat lui indiqua que les trois gardes se tenaient 30 mètres plus haut. Deux d'entre eux étaient affaiblis par la maladie, le troisième empestait la peur. Elle flairait également la graisse des armes automatiques, ainsi que les relents de nourriture émis par la bouche des hommes. Ils avaient bu du thé au beurre rance, mangé du poisson séché et une bouillie de lichen. L'un des trois avait, en sus, avalé un gobelet d'alcool artisanal titrant 80 degrés. Le danger, c'était les Kalachnikovs. Même terrifiés par son apparition, les gardes pouvaient la fusiller par automatisme, dans un réflexe acquis à l'entraînement. Ils avaient creusé la glace pour s'y ménager une habitation troglodyte. Le poêle, alimenté à la graisse de phoque, y entretenait une chaleur acceptable. À travers l'épaisseur des parois vitreuses, Peggy distinguait leur silhouette accroupie. Ils mangeaient. Quelle raison aurait-il eu de se tenir sur le qui-vive? Le froid inhumain qui régnait aux alentours ne constituait-il pas la meilleure des sentinelles? L'Américaine mesura du regard la distance qui la séparait de la casemate. Pas la moindre cachette. Rien qu'un couloir à découvert. Et pas question d'attendre la nuit, il faisait trop froid. Elle devait profiter de l'effort déployé par les nanoparticules. L'expérience lui avait appris que ces pointes d'hyperactivité étaient toujours suivis de longs moments de latence pendant lesquels les nanoéléments reconstituaient leurs réserves énergétiques. En outre, un désir étrange s'emparait d'elle. L'envie de dévorer ces humains, de se repaître de leur chair et de leur sang. Oui, Elle avait hâte de creuser un trou dans leur cage thoracique et d'y enfoncer son museau pour leur dévorer le cœur et les poumons. Son museau ?
Qu'est-ce qui m'arrive ? Songea-t-elle. Voilà que je me mets à penser comme un animal, comme un ours.
Elle aurait voulu se ressaisir, mais le besoin de manger était plus fort que tout, plus fort que le danger, que la menace des armes automatiques. Elle devait y aller, maintenant. Elle se redressa et s'élança. Elle aurait pu progresser en silence, mais un instinct qu'elle ne sut réprimer la poussa à rugir.
À rugir ?
Elle ne réfléchissait plus. Des pensées rouges et furieuses emplissaient son esprit. Il lui suffit de deux bonds pour atteindre l'entrée de la caverne. Les hommes avaient déjà empoigné les armes groupées en faisceaux. À la seconde où ils se retournèrent vers Peggy, le fusil d'assaut brandi, une expression de terreur déforma leurs traits. Au lieu d'enfoncer la détente des Kalachnikovs, ils demeurèrent pétrifiés, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. Peggy ne leur laissa pas le temps de se reprendre. D'un coup de patte, elle arracha la tête du premier.
D'un coup de patte ?
Ses griffes lacérèrent le torse des deux autres, cisaillant les vêtements de cuir avec autant de facilité que si elle avait possédé des lames de rasoir en guise d'ongles. Les hommes s'effondrèrent. L'odeur du sang emplit la casemate, formidablement excitante. Alors seulement Peggy surprit son reflet dans le ventre pansu d'une bouilloire de cuivre. Ce n'était plus un visage humain qu'encadrait le capuchon de la parka, mais un mufle poilu s'ouvrant sur une double rangée de crocs. Quant à ses gants, ils avaient explosé pour laisser le passage à deux pattes aux griffes gluantes et rouges. Elle était devenue un ours grotesquement déguisé en humain. Cette vision la dégrisa. Elle comprenait maintenant pourquoi les sentinelles avaient été frappées de stupeur. Un vertige la saisit. Elle dut s'adosser à la paroi, le temps de recouvrer ses esprits. Elle resta ainsi, paupières closes, durant 5 minutes. Quand elle rouvrit les yeux, ses mains avaient repris leur apparence normale. Ses gants ayant été réduits en miettes par la métamorphose, elle en récupéra une paire sur l'un des hommes qu'elle venait de tuer. Elle avait hâte d'en finir. Les trois cadavres couchés auprès du petit poêle à graisse éveillaient en elle des sentiments confus, fait d'horreur et de convoitise, de dégoût et de gourmandise. Elle avait envie de les manger. Oui, de les dévorer pendant qu'ils étaient encore chauds, que leur sang n'avait pas eu le temps de figer, que leur viande était souple. Les manger, oui, avant que le froid ne les change en statues. Elle eut du mal à s'arracher à sa contemplation et à quitter la casemate. Titubante, elle laissa le poste de garde derrière elle. Désormais, aucun obstacle ne se dressait plus entre Gronski et elle. Au bout du passage s'élevait un château baroque, vaguement tibétain, taillé dans la glace à coups de pioche. Peggy supposa que ce travail avait été accompli par les sentinelles au premier temps de leur installation, pour tromper l'ennui et se réchauffer. Cette architecture maladroite avait quelque chose d'irréel. Un conte de fées orientales, songea Peggy, l'isba d'un sorcier, d'un démon. La bâtisse ne possédait qu'une seule entrée. À cet endroit, la température était de -67 degrés. La jeune femme franchit le seuil du palais et s'engagea dans le long couloir s'enfonçant à l'intérieur de la banquise. Le GPS indiquait qu'elle venait d'atteindre le terme de sa quête. Ici, les corridors de glace étaient éclairés par une myriade de plafonniers qui s'illuminaient dès qu'on entrait dans le champ de leurs cellules photoélectriques. De part et d'autre du couloir central s'ouvraient des appartements meublés dans le style russe bourgeois en vogue à l'époque du tsar Nicolas II. C'était incongru et surréaliste. Crédence, sofa, miroir, bibliothèque s'adossaient aux parois vitreuses creusées dans la banquise. On n'avait rien oublié, pas même les lustres à pendologue que les courants d'air faisaient cliqueter. Éberlué, Peggy explora le salon. Le givre recouvrait tout de sa poussière cristalline, les livres, les fauteuils. Dans le chariot à liqueur, les carafons de cristal avaient explosé. Il en allait de même pour les grands miroirs, que le froid avait criblés de fêlures en toile d'araignée.
La jeune femme se demanda quelle existence Gronski pouvait bien mener ici, loin du monde, en exil, en un lieu conçu pour les ours, les phoques et les loups. Elle poursuivit son exploration. Il n'y avait pas âme qui vive. Ça et là, cependant, des détecteurs clignotaient, des caméras pivotaient sur leurs rotules pour suivre les évolutions de l'intruse. « Je suis repérée, » songea-t-elle. « Il sait que je suis là. En ce moment même, il m'observe sur un écran de contrôle. » Des réseaux de fils multicolores couraient sous la glace, dessinant sous ses pieds un immense circuit intégré. Elle se trouvait au sein du complexe de communication permettant aux marchands d'armes de commercer avec le reste de la planète. Tous les couloirs de cette toile d'araignée aboutissaient au même endroit, une pièce octogonale creusée elle aussi dans la glace. Le centre de contrôle, la salle du trône, où Gronski siégeait, l'œil rivé à l'écran de son terminal. Peggy s'immobilisa au seuil de la pièce. Un homme se tenait là, avaché entre les bras d'un fauteuil de cuir. Très maigre, les cheveux et la barbe, d'un gris sale, avaient poussé au-delà des limites tolérables, lui donnant l'aspect d'un Rasputin centenaire. Enveloppé de peau de loup, il avait l'air d'un prince brigand surgi de la taïga. Le visage émacié n'entretenait qu'une lointaine ressemblance avec celui que Peggy avait étudié sur les clichés du dossier constitué par Evgeny. L'homme leva sur elle un regard éteint et fit entendre un ricanement. « C'est bien moi, lâcha-t-il avec un fort accent russe. J'ai une sale tête, je sais. C'est à cause des médicaments, des injections qui me permettent de survivre à cette température. Sans elles, je serais mort depuis longtemps, comme les autres. Quand je me suis installé ici, j'étais accompagné d'une véritable cour, tu sais. Les amis, les femmes, les chiens. Ce palais résonnait de leurs rires, nuit et jour. La vodka coulait à flot. Nous faisions des courses de traîneaux. Nous chassions l'ours à la Kalachnikov ou au bazooka, selon notre degré d'éthylisme. Nous avons ri, et puis le froid, n'est-ce pas? Le froid terrible. Ils m'ont abandonné les uns après les autres sous des prétextes divers. Les femmes en premier, elles grelottaient en permanence. Je les entendais claquer des dents la nuit. C'était agaçant, ces bruits de castagnettes. Les vrais fidèles sont restés. Ils ont fini par mourir. Pleurésie, nécrose des jambes, des mains, la gangrène du pôle, la chair qui devient noire, horrible. Je les amputais moi-même. Mauvais souvenir. Il s'exprimait avec naturel, comme s'il s'adressait à une vieille connaissance, au point que Peggy se demanda s'il la prenait pour quelqu'un d'autre. Mais non, il savait qui elle était et ce qui l'amenait ici. Elle l'écouta sans bouger. Elle avait repéré un gros Makarov sur la console, près du clavier de l'ordinateur. Gronski n'avait qu'à tendre la main pour s'en emparer. À cette distance, il ne risquait pas de la rater. « J'ai cru que je pourrais me passer d'eux, » reprit le marchand d'armes. « Que l'exercice du pouvoir suffirait à m'occuper. Les combinaisons à échafauder, les complots, les traquenards, tout ça. Mais c'était une erreur. On a beau être le maître du monde, on a toujours besoin des autres, même s'ils sont tout petits, minables, sans importance. Des bouffons. Tu comprends ça? C'est pénible, cette dépendance aux bouffons. Ça devrait pouvoir se soigner. » Il eut une quinte de rire. Un éclat de jovialité cathareux y soupira. « Tu t'en fous, bien sûr. Tu es là pour me tuer. C'est Evgeny qui t'envoie. Ce pauvre Evgeny, avec ses méchants costumes, ses chaussures en carton. Un vrai moscovite des années 50. Il est comme tous les militaires. Sorti de l'uniforme, il ne sait plus s'habiller. Il y a si longtemps qu'il s'obstine à vouloir me supprimer. Jusqu'à présent, ces tueurs sont morts, gelés ou dévorés par les ours. Tu es la première à franchir ce seuil. Mais tu es différente de tes prédécesseurs, n'est-ce pas? Les caméras m'ont retransmis ce qui s'est passé dans le poste de garde. Tu n'es pas complètement humaine. Tu t'es changée en ours l'espace d'une minute. J'ai dû me repasser 3 fois l'enregistrement pour être certain de ne pas rêver. C'était beau, magnifique. On aurait dit une légende des steppes. Alors, c'est ça la dernière trouvaille d'Evgeny. Des espions mutants, des monstres. Quand j'étais jeune, j'aurais donné n'importe quoi pour faire l'amour avec toi. Baiser une femme ours, quelle excitation! Peggy ne répondit pas. Dans la poche de la parka, sa main droite étreignait la capsule thermique qui, en réchauffant la pièce, provoquerait l'éveil du virus. Gronski la fixait d'un œil goguenard. Tu es là pour me tuer, répéta-t-il. D'accord, vas-y. Je ne me défendrai pas. Je suis fatigué et j'en ai assez. Je m'ennuie trop. J'ai essayé d'engager de nouveaux courtisans, mais personne n'a répondu à mes offres. Ça ne t'intéresserait pas, toi? Tu ne voudrais pas devenir ma demoiselle de compagnie? Oh, il n'y aurait aucune obligation sexuelle, rassure-toi. Je ne suis plus en état de baiser. Non, mais tu pourrais me faire la lecture. Tu me lirais tout Tolstoï, et Pouchkine, et Bulgakov, et Gogol. Hein? Qu'en dis-tu? As-tu une belle voix au moins?
Je te paierai bien. 1 million de dollars par mois. Non, deux. 2 millions de dollars mensuels. Ça te dirait? Ah, comme j'aimerais entendre encore une fois la guerre et la paix. Il est fou, songea la jeune femme.
Les médicaments et l'abaissement de sa température interne lui ont détraqué l'esprit. Ah, Dostoïevski, soupira Gronski avec mélancolie. Personne n'est plus capable d'écrire des choses pareilles. Le communisme a étouffé les vrais talents. Maintenant, la Russie ne compte plus que des scribouillards fonctionnarisés, des intellectuels pleurnichards. Le goulag, ils ne savent pas parler d'autre chose. Ah, souvenir de la maison des morts, c'était d'une autre tenue. Des cristaux de givre brillaient dans son interminable barbe grise. Peggy lui trouva l'air d'un Père Noël maléfique, aigri, corrompu par la drogue et le vice. Le tsar Nicolas II, l'Empire, rêva-t-il encore. C'était bien. Alexandra Fédorovna, et Raspoutine, Youssoupov, les complots de palais, les orgies. Je me suis trompé d'époque. J'aurais dû naître avant la Révolution. Peggy sortit la main de sa poche. D'un coup de pouce, elle fit sauter le couvercle du détonateur. Le regard de Gronski s'illumina. Ah, je vois, ricana-t-il. Tu ne vas pas me déchirer comme les gardiens. C'est quoi ce truc? La jeune fille lui expliqua d'un ton calme le principe de la grenade thermique. Il aurait sans doute été plus simple d'égorger Gronski d'un coup de patte, mais elle n'était plus en état de le faire. Depuis un moment, le froid la rattrapait. Les nanoparticules s'étaient rendormies, l'abandonnant à son sort. S'il ne lui était plus possible de se changer en ours, l'hiver polaire risquait de la tuer à brève échéance. Elle ne devait pas s'attarder au cœur du palais. Le sang s'épaississait déjà dans ses veines. Elle se sentait faible, gagnée par une somnolence sournoise.
Vas-y, capitula Gonski. Tu peux me tuer. Si tu ne veux pas devenir ma demoiselle de compagnie, je n'ai aucune raison de m'obstiner à survivre. Je m'ennuie trop. Ah, une chose cependant. Une dernière farce. Une blague qui te fera bien rire. Quoi? S'impatienta Piggy dont les dents commençaient à claquer.
Je me suis fait greffer un minuscule émetteur dans la poitrine, expliqua l'homme aux cheveux gris. Ce petit bijou est programmé pour envoyer un signal dès que mon cœur s'arrêtera de battre. Et ce signal commande quoi? L'explosion de 10 cents de charge ensevelie en des points précis de la banquise, plus particulièrement des zones vulnérables, ce que les géologues appellent des lignes de fracture. D'après mes calculs, les déflagrations devraient provoquer l'ouverture de failles n'existant encore qu'à l'état embryonnaire. Pour résumer, disons que l'iceberg tabulaire qui nous porte va éclater en 1000 morceaux. Un véritable puzzle. Des centaines de fragments dérivant au hasard des courants. La fin du monde. Quand cela se produira, il y a fort à parier que tu seras avalé par l'une des crevasses. Vous bluffez. Tu verras bien, ma jolie colombe. Allez, enfonce ce bouton qu'on en finisse. Presque à son insu, sans qu'elle en ait eu réellement l'intention, Peggy se surprit à presser le détonateur. Elle eut le réflexe de jeter l'objet aux pieds du maître des lieux. Elle crut que Gronski allait empoigner le Makarov et l'abattre pour se venger. Il n'en fit rien, se contentant de darder sur elle un œil ironique pendant qu'elle reculait en titubant. Presque aussitôt, le boîtier métallique se volatilisa, donnant naissance à une flamme brève à l'éclat magnétique. À l'intérieur de la pièce, la chaleur s'éleva en de telles proportions que Peggy se crut environnée de flammes. Poussant un cri, elle tomba à la renverse, tandis que la glace des parois se mettait à fondre, faisant pleuvoir des gouttes d'eau sur l'écran du terminal. Pendant une minute, le thermomètre indiqua 45 degrés. Puis l'aiguille retomba en dessous de zéro à une vitesse vertigineuse. Cela avait suffi cependant. Gronski était désormais infecté par le virus implanté dans son organisme des années plus tôt. Peggy faillit perdre connaissance. La soudaine élévation de chaleur ayant provoqué une dilatation brutale des capillaires irriguant son épiderme, sa tension chuta. Pendant 3 secondes, son cœur faillit entrer en fibrillation et elle oscilla au bord de l'infarctus. Heureusement, les nanoparticules intervinrent in extremis et rétablirent la pression à l'intérieur du réseau artériel en y injectant une dose massive de sérum physiologique. La jeune femme rampa vers la sortie du château. Elle agissait dans un brouillard mental, proche de la syncope. Seul l'instinct de survie l'empêchait encore de s'abandonner au sommeil. Gronski, grâce aux injections quotidiennes qu'il s'infligeait depuis des années, avait à peine perçu le flash thermique généré par le drageoir. Au vrai, il n'avait pas bougé, comme si tout cela ne le concernait pas. Quand Peggy put enfin se redresser, elle s'éloigna le plus vite possible du palais tibétain. Haletante, elle essayait de se remémorer les explications d'Evgeny. À présent qu'il était infecté, Gronski n'avait plus qu'un jour à vivre. Cela signifiait que d'ici 24 heures, son cœur s'arrêterait de battre. L'émetteur implanté dans son thorax expédierait alors un signal de mise à feu au détonateur enfoui dans l'épaisseur de la banquise, qui volerait en éclats. Une journée. Peggy se demanda si elle aurait le temps de regagner Blackfinger Junction avant que le tabulaire ne se disloque.